coup, est-ce que tu peux décrire un petit peu cette carte?
Alors, donc c'est la carte 3 du tarot collectif. Et on voit une nuit étoilée avec des brins de blé en herbe, comme ça, en arrière-plan. Et en premier plan, une main qui tient dans le creux de sa main, il y a un petit océan de l'eau. Et un petit personnage allongé sur le dos, les mains grandes ouvertes, donc c'est un petit personnage qui n'est pas spécialement sexué, il a un sein. Et dans le ventre de ce petit personnage, on voit se refléter la lune qui éclaire cette nuit. Bon, c'est une carte un peu, voilà, c'est une carte un peu symbolique, hein, c'est pas du tout réaliste. Et dans cette lune, en fait, la lune qu'il y a sur le ventre du petit personnage, mais qu'il y a aussi dans la nuit étoilée, on voit une lune avec au milieu de la lune une figue coupée en deux, enfin une moitié de figue. Donc on voit les graines de figue, on voit les étoiles. En fait, on ne sait pas bien si c'est des étoiles ou si c'est un peu des pollens de. Des pollens de blé qui s'éparpillent dans le ciel. Voilà, c'est une carte un peu mystérieuse. Elle est assez calme en même temps. Et du coup, elle s'appelle Réception.
Elle danse. Elle danse à la pleine lune. Femme lunaire, lunatique, atteinte, disent-ils, de folie périodique. Pourquoi sorcière? Parce qu'elles vivent. Parce qu'elles sont en contact direct avec la vie de leur corps, avec la vie de la nature, avec la vie du corps des autres. Les sorcières respiraient, palpaient, appelaient chaque fleur, chaque herbe, chaque plante. Ainsi, elles guérissaient ou empoisonnaient. Rien là de surnaturel. Pourquoi sorcières? Parce qu'elles jouissent.
Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure de Radio Réussite sur Radio Galère 88.4 FM. Dimanche 12 mai, soir de demi-lune, nous sommes à mi-chemin de la complétude astrale et jour de la fête de Jeanne d'Arc, nous prenons les ondes sous les étoiles saintes ou ensorcelées, nous verrons bien. Et parce que le 3 est symbole de créativité, sensibilité, expression profonde, nous vous invitons pour cette troisième émission à un voyage cosmique. Ce soir, oui, nous nous faisons sorcières pour vous parler du cosmos. Parler du cosmique, c'est questionner le vide et l'absolu, du micro au macro. C'est réfléchir à nos liens avec l'univers et le monde. C'est comprendre que nous ne sommes rien et que notre somme fait le tout. C'est comprendre que rien n'a de sens ou que la vie est partout. La réussite cosmique, c'est l'équilibre, lorsque chaque élément est à sa place, paysage sonore d'une harmonie parfaite. Mais questionner le cosmique, c'est aussi réfléchir au déséquilibre. Notre monde est si bousculé par les rapports de domination et la nature si fragile face au pouvoir de destruction humaine. Alors nous voulons parler au cosmos et lui dire merci. Nous voulons prendre soin de lui et soin de nous. Bienvenue dans la réussite cosmique. On vous embarque dans l'espace avec l'innocence de l'enfance et l'humilité de nos conditions humaines, nécessaires pour que ce qui nous dépasse se révèle et éclate en jouissance.
Nous n'avons ici, dit-elle, qu'un soleil par mois et pour peu de temps. On se frotte les yeux des jours à l'avance, mais en vain, tant inexorable. Soleil n'arrive qu'à son heure. Ensuite, on a un monde de choses à faire, tant qu'il y a de la clarté. Si bien qu'on a à peine le temps de se regarder un peu. La contrariété pour nous dans la nuit, c'est quand il faut travailler, et il le faut. Il naît des nains continuellement.
Mars, Neptune, Jupiter. Attends, Mars, Neptune, Jupiter. La Terre, les étoiles. Enfin, Pluton, c'est pas considéré comme une planète. C'est à peu près tout, c'est un peu toutes les planètes que j'ai en tête. Et je trouve que le soleil il est un plus beau et que la lune pour moi, enfin c'est un peu du gris, c'est du gris blanc, alors que le soleil c'est plusieurs couleurs, pour moi c'est du rose, du jaune, et un peu de blanc et surtout du rouge, et moi qui adore le rouge. Pour moi l'univers c'est là où il a un peu toutes des planètes réunies, qu'il a plusieurs théories à propos de ça, et que c'est un sujet un peu vaste. L'univers n'a pas vraiment de taille, ça ne s'arrête jamais. C'est quasiment impossible de savoir sa longueur, parce que s'il a quelqu'un qui voyage pour vraiment ça, faut déterminer quelle est la longueur de l'espace, ben à un moment il va mourir tellement que c'est grand. Une étoile, c'est une planète. Pour moi, pour tout le monde, c'est une planète qui, ça c'est sûr que qui brille, enfin que ça brille. Ça ne pourra être jamais habitable. Enfin, peut-être des insectes ou plein de trucs microscopiques, mais des humains, je sais pas trop. Ça m'étonnerait que ça arrive dans plus de 100 ans. Une planète idéale. Il n'y a pas de voiture normale et que les voitures volent, que tous les véhicules volent. Comme ça, ça évite un peu la pollution et ça serait plus drôle. Il y a plus d'arbres et que les arbres ont des formes, par exemple, de visage. On peut parler avec les animaux qui nous comprennent plus facilement. Dans la planète, il n'y a pas que des humains. Si tu as envie, il y a même des jouets qui peuvent prendre vie et parler de la langue que tu comprends. Et c'est un peu tout pour mon monde.
moi, comment j'ai l'habitude de la lire, cette carte, c'est une carte qui pose, qui t'interroge sur la notion de care. Donc, dans ce camp, moi, quand je tire cette carte, je me pose toujours la question, est-ce que je suis à la place plutôt de la main qui prend soin de ce petit personnage ou ce petit personnage qui flotte là dans la main? Cette carte, elle est là-dessus, elle est dans les deux sens. En tout cas, pour moi, cette carte, eh ben, c'est une carte qui parle de la notion de care, qui est quelque chose qui est à la fois évident, qui est vachement présent dans nos vies, et qui est à la fois assez invisible, et qu'on met un peu de temps à se rendre compte en fait, de la place que ça a dans nos vies réellement. C'est un mot en anglais. Et si on le traduit en français, ça veut dire le soin. Et c'est vrai qu'on n'utilise pas trop le mot soin parce qu'il est peut-être plus associé à quelque chose de médical. Le care, c'est un peu plus large. Et c'est vraiment... mais en même temps, bon, voilà, ça peut se traduire par prendre soin. Et pour moi, c'est vraiment un concept important. C'est vraiment la pensée féministe qui a permis qu'on le visibilise. Ça a commencé dans les années 70 avec un peu les travaux sur le travail gratuit des femmes et le fait que travailler gratuitement au ménage, aux soins des enfants, aux soins des vieux, c'est toute une. Ça permet de reproduire la force de main-d'œuvre de façon gratuitement. Ce travail gratuit, il est obtenu par le fait que. Il y a une domination qui est bien assise et bien naturalisée, qui fait qu'on ne le voit même pas, ce travail gratuit. On considère que ça fait partie en fait, des qualités, des attributs des femmes de faire ça et de le faire comme si on le faisait sans effort. Alors qu'en fait, c'est un vrai travail qui n'est pas reconnu, qui est invisible et qui demande beaucoup d'efforts. Et c'est un peu dans, moi, c'est ça que j'aime bien dans la pensée féministe, c'est que ça a pu montrer bon, le côté travail domestique gratuit, ça c'est les années 70, mais c'est aussi tout le travail relationnel, tu vois, la charge mentale, le fait, dans une conversation, d'encourager l'autre à parler, de l'écouter, de tout cet effort qu'on ne veut pas voir. Et puis ça va jusqu'à maintenant, en fait, dans la pensée économique féministe aussi, de... dans les flux de la mondialisation, dans l'ordre mondial, c'est aussi ce travail sous-payé qui va être fait par des femmes migrantes, parce qu'il ne peut pas être délocalisé ailleurs, comme prendre soin des vieux, prendre soin des gamins. Et du coup, toutes ces femmes qui vont risquer leur vie pour traverser la Méditerranée, pour arriver, et finalement... Si on leur octroie un statut, ce qu'on va leur proposer comme formation, et ça va beaucoup être aide-soignante, assistante de vie, ou pour faire femme de ménage. Ça implique beaucoup de choses, le care. Mais pour moi, c'est aussi une notion positive. C'est aussi comment on est capable de prendre soin les unes des autres, les uns des autres, et de dans un monde qui est assez dur quand même, où selon sa place, on subit pas mal d'oppression, comment on arrive à pas devenir folle, à créer des solidarités, à créer des choses pour y arriver à y vivre dedans. Donc voilà, bon là je m'éloigne peut-être un peu de la carte, mais du coup c'est à ça qu'elle me fait penser, cette main, tu vois, c'est comment tu trouves l'équilibre pour faire des projets, faire grandir des choses un peu utopiques, et où tu penses que ça va quand même améliorer ta condition de vie, lutter contre des oppressions et tout. Et aussi, quand même, ne pas s'épuiser, ne pas s'épuiser, pouvoir aussi trouver des ressources.
Je vous écris du bout du monde. Il faut que vous le sachiez. Souvent, les arbres tremblent. On recueille les feuilles. Elles ont un nombre fou de nervures. Mais à quoi bon ? Plus rien entre elles et l'arbre, et nous nous dispersons, gênés. Est-ce que la vie sur terre ne pourrait pas se poursuivre sans vent ? Ou faut-il que tout tremble ? Toujours. Toujours. Il y a aussi des remuements souterrains et dans la maison, comme des colères qui viendraient au-devant de vous, comme des êtres sévères qui viendraient arracher des confessions. On ne voit rien que ce qu'il importe si peu de voir. Rien. Et cependant, on tremble. Pourquoi ?
Disparaît, disappears, verschwindet, du monde, Peppermint, on earth, der Erde. Alors, l'enfant, copilul, the child, the kind, nomade, nomade, nomade. Nomade, renaîtra, revine, come back, come zurück, du désert, in desert, in desert, in wüste. Vivra, rendie, reborn, geboren, du souffle. Soufflul, breath, de luft, de la mer, Marie, of the sea, des mers et de la terre, Shippamundului, and earth, des wounds. Et sauvage, she selvatic, and wild. Und wild, il, elle, he, er sauvera, salverse, saved, und hilft, le monde, pomundul, the world, the earth.
Mais à salon de thé, il faut en aller un peu plus loin. Vous en avez un du côté du sable, mais c'est un kilomètre ici.
Imaginez que vous traversiez une forêt. Imaginez une forêt très ancienne. Imaginez une forêt domestique. Imaginez une forêt familière, une forêt étrange, une forêt à la blanche neige. Imaginez une forêt à la peinture à l'huile. Comme c'est la nuit, vous faites un feu. Vous imaginez la préhistoire. Imaginez la préhistoire, mais pas les hommes préhistoriques, pas les mammouths, pas les tigres. Ne gardez que l'idée de la grotte. Essayez de garder l'image de la grotte comme seule image. Alors seulement vous pouvez allumer un feu. Avec des produits chimiques, mais sans jamais perdre un instant l'idée de la grotte et de la préhistoire. Imaginez les profondeurs de la forêt. Imaginez un monde domestiqué, synthétique, mais à la fois sauvage et primitif. Imaginez un monde de l'enfance, mais en gardant à l'esprit la préhistoire, les profondeurs sans animaux, et surtout l'image de la grotte et les ombres dessinées par le feu. Ne vous attardez pas sur les détails. Ne pensez pas à la faune, à la flore, juste à la nuit et à l'odeur de fumée. Imaginez un accident dans la forêt. Imaginez des pierres énormes qui tombent du ciel et traversent les branches sans bruit. Tenez-vous à l'essentiel, juste une scène avec des odeurs et des ombres sur les parois. Et vous, autour d'un feu familier, calme et rêveur, sous un ciel étoilé. Imaginez maintenant un météore. Imaginez une usine, une zone industrielle, des camions-citernes, des voitures sur les toits des maisons. Imaginez un feu dans toute la forêt jusqu'aux profondeurs. Imaginez que vous traversiez une forêt préhistorique, confortable et dévastée, qui n'a plus de profondeur cachée, où les sons ont disparu. Où il n'y a plus de traces, plus d'animaux, plus de chasseurs. Comme c'est la nuit, vous faites un feu.
Radio Réussite, histoire, musique, paysage, féminisme.
Et est-ce que, parce qu'il y a quand même une grande place donnée à la nuit, le blé qui est effectivement en train de germer, est-ce que tu vois un lien un peu à la nature ou, je sais pas, au rythme un peu du temps ou... Enfin, un lien en tout cas à la nature.
Ou... Un lien à la nature, bah, là dans cette carte, il y est clairement, tu vois, je veux dire, il y a la lune, il y a l'eau, il y a les plantes qui poussent, il y a un lien. C'est plus que la nature, c'est recevoir, quoi. Comment tu recevois, c'est quoi les mouvements qui te permettent de recevoir et que ça soit dans un équilibre.
Donc elle va bien cette lune alors, dans la carte réception.
Ouais, bah dans la carte réception, elle a un peu la même... Elle a un peu cette fonction-là, elle est dans le ciel, elle est claire, elle rappelle des choses qu'on a en nous, puisque tu vois cette petite figue que tu as dans la lune, si tu regardes bien, elle est en miniature dans le ventre du petit personnage, comme si ce petit personnage, qui lui-même est dans la main, dans son ventre, tu vois, il est un peu enceinte de la lune. Il y a cette carte, elle est vraiment très circulaire. On ne sait pas qui... C'est vraiment le cycle, tu vois, le cycle qui va de la graine qui pousse et puis qui s'éparpille et qui va se disséminer et qui va s'enraciner, repousser... Ouais. Moi, j'aime bien aussi cette image de la graine qui germe, des petites choses qui s'éparpillent avec le vent. Donc, pas toujours, c'est pas, pour revenir, c'est pas des choses qui sont forcément planifiées, des projets. Tu vois, c'est pas forcément l'agriculture, c'est aussi les choses qui s'éparpillent au vent et qui vont mener leur propre vie. Les idées, tu vois, qui circulent, les rencontres, tout ça. Là, pour moi, ça fait très... Ça, c'est mon petit côté cosmique. Tu vois, petit côté... Il y a des choses qui voguent toutes seules, sans qu'on... Heureusement, sans qu'elles soient sous notre contrôle. Et alors, pourquoi ça s'appelle réception aussi ? Tu vois, c'est le fait de recevoir. J'arriverai pas bien à l'expliquer. Ce que ça veut. C'est vrai que c'est... tu vois, on est quand même vachement formaté à penser que c'est un peu faible de recevoir. Et on est aussi dans un monde où il y a beaucoup d'accaparement, en fait. Beaucoup de... Le fait de prendre au détriment des autres, de prendre parce qu'on est dans une certaine place du système de domination. Alors que recevoir, c'est vraiment une autre idée. Tu vois, avec cette image, quoi.
Je vous ajoute encore un mot, une question plutôt. Est-ce que l'eau coule aussi dans votre pays? Je ne me souviens pas si vous me l'avez dit. Et elle donne des frissons, si c'est bien elle? Est-ce que je l'aime? Je ne sais. On se sent si seul dedans quand elle est froide. C'est tout autre chose quand elle est chaude. Alors, comment juger? Comment jugez-vous, vous autres? Dites-moi, quand vous parlez d'elle sans déguisement, à cœur ouvert.
Et donc, du coup, ce mouvement extinction-rébellion, pourquoi ces deux mots-là?
Extinction, parce qu'on vit la sixième extinction de masse sur la planète Terre, quoi. C'est l'effondrement des espèces, des animaux sauvages, de la faune marine, des espèces d'insectes. On a perdu 80% d'insectes. En 30 ans, il y a un dernier rapport du WWF qui dit qu'on a perdu 60% des animaux sauvages, je crois, en 40 ans. On pourrait avoir pêché le dernier poisson en 2040. Voilà, les prochains c'est nous, quoi. Les prochains c'est nous. Ça fait un peu froid dans le dos quand même. Et rébellion, bah, parce que les gens qui nous dirigent supportent et pérennisent ce système-là, quoi. D'épuisement des ressources et de destruction de notre environnement et de notre écosystème. On n'est pas tous responsables. Même si on fait partie de la masse de consommateurs, on n'est pas tous responsables de ce désastre, quoi. Je crois qu'une centaine d'entreprises sont responsables de bien plus de la moitié des gaz à effet de serre. Mais pour autant, je fais partie de ceux qui pensent que c'est notre devoir de mettre nos libertés individuelles en jeu, quoi. Parce qu'en fait, chaque dixième de degré va compter. On se réchauffe, vraiment.
Si finalement c'est une centaine d'entreprises qui sont responsables de ces gaz. C'est clair qu'on peut se dire qu'on a beau, à l'échelle individuelle, tenter d'avoir un mode de vie un peu où on consomme bien comme il faut.
Réduire les douches, faire son petit jardin.
C'est clairement quand même pas assez à une échelle un peu plus large.
Voilà.
Et donc Extinction Rébellion arrive aussi pour ça, peut-être pour dire on fait une réponse politique, enfin en tout cas collective.
En tout cas une alternative visible de plus, parce que des mouvements comme ça il y en a déjà beaucoup. Mais là il y a quand même, en Angleterre on l'a vu, un mouvement un peu, je dirais un mouvement de foule quoi. Où les gens font ça un peu parce que on ne sait plus trop quoi faire pour se faire entendre aussi quoi. En Angleterre, ils ont bloqué Londres plusieurs jours et ils comptent le refaire. Nous, pour l'instant, le mouvement, il est né en France il n'y a pas très longtemps. Et on part du principe que pour fédérer des gens, il faut déjà faire des petites actions et se faire voir. Et ensuite, petit à petit, faire ce qu'on appelle l'escalade. Donc, monter graduellement dans la radicalité des actions, tout en restant dans la non-violence. Parce que il y a une étude qui dit que avec 3% de la population, tu peux faire basculer les choses politiquement. En tout cas, petit à petit, monter graduellement dans la radicalité pour aller jusqu'à, en espérant des blocages de masse dans les poumons économiques, ça serait le but, ouais. Ils ont bloqué certaines routes, certains ponts. Ils se sont fait déloger, donc ils sont allés ailleurs, et ainsi de suite. À un moment, ils ont mis un voilier en plein milieu d'une très très grande avenue. Là. Ils ont occupé le lieu, voilà. Ils ont mis des tentes et ils ont dit voilà, on bouge pas.
Et c'est pour montrer qu'il n'y a pas d'autonomie si.
En tout cas, pour montrer que l'inaction des politiques n'est plus acceptable et que ils bougeront pas tant qu'ils n'auront pas eu une réponse politique.
Et donc ça fait combien de temps toi que tu y es ?
Ça fait pas longtemps, hein. T'es pour tout, ça fait 2 mois et demi. Voilà. J'ai un mouvement qui est jeune après. Mais en 2 mois et demi, je suis déjà un ancien, quoi. Alors bon.
Il y a du monde qui arrive ?
Ouais. Il faut qu'on organise beaucoup plus régulièrement des réunions du coup pour accueillir les nouveaux, des réunions où ceux qui ont un peu pris leur marque puissent penser des actions, imaginer des choses, faire des groupes de travail et lancer des actions quoi.
Là vous en avez déjà lancé des actions ?
Quelques-unes, ouais. Quelques-unes en simultané avec d'autres pays. Parce que bon, c'est pas un mouvement qui est que en Angleterre, en France, hein. Il y a en Allemagne, en Australie. En Belgique, en Suisse et dans d'autres pays encore. On a fait des petites actions où on fait de l'affichage sauvage, on est encore dans le symbolique quoi. On fait ce qu'on appelle des die-ins, on se couche comme mort au milieu de la route pour interpeller plus de passants possible. Et il y a eu des actions à Paris où ils ont déversé un camion de fringues d'occasion devant H&M. Ça faisait une grosse montagne de fringues devant l'entrée. C'était assez beau à voir. Et des actions qu'on appelle de swarming, où on bloque et on débloque des carrefours et des routes. On discute un maximum avec les gens, on leur donne à boire, on leur donne des gâteaux, des choses comme ça. Et après, on rouvre le passage et on referme, ainsi de suite.
Et voilà. Dans ces moments-là, les gens, ils sont comment ?
En fait, les gens sont un peu réticents quand ils voient des militants écolos arriver. Ils se disent l'écologie, moi, je connais pas grand chose, ça me concerne pas trop, je m'y intéresse pas, même si je devrais, mais bon, j'ai pas le temps, je travaille. Et en fait, il suffit de leur parler 5 minutes et dire mais moi je suis comme toi, mais j'ai pris le temps que j'avais pour apprendre ces 2-3 infos et je te les donne. Et dès qu'on parle un peu d'effondrement, tout ça, j'en s'arrête. Ils t'écoutent et ils ont la même réaction que toi, quoi.
Qui est laquelle ?
La stupéfaction. Et la peur aussi. Parce que ça fait peur. Ça fait peur, ouais. Ça fait peur et quand tu t'y intéresses vraiment, un peu tes rêves aussi qui s'écroulent avec. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on peut chauffer à relativement bas coût. On peut mettre de l'essence dans la voiture encore à bas coût, même si les gens ont commencé un peu à aller dans la rue pour ça. Mais si le prix du pétrole, par exemple, monte en flèche et qu'on ne peut plus utiliser notre voiture, ça veut dire que le prix de l'alimentation va grimper en flèche. Par exemple, je fais une parenthèse là-dessus, mais l'autonomie alimentaire de Paris, c'est 3 jours. C'est-à-dire que en cas de crise énergétique majeure, que les transports routiers ne sont plus assurés pour amener de la nourriture dans Paris, au bout de 3 jours, les magasins sont vides. Voilà. La communauté des collapsologues, donc la collapsologie, c'est l'étude de l'effondrement. Donc tu as plusieurs experts sur le sujet, français notamment, qui eux compilent tout un tas d'études. Et bon, les plus optimistes, ils disent 15 ans, 15 à 20 ans.
Avant quoi alors?
Avant un effondrement de société. Après, dernièrement, pour avoir un peu pris du recul sur le sujet, un effondrement de société, c'est pour les Occidentaux, quoi. C'est pour nos modes de vie occidentaux. Nous, ça va vraiment nous faire drôle, quoi. Vraiment, ça va être différent.
Parce que c'est vrai que j'imagine que tu dois passer peut-être par une phase de déni, puis de... Enfin, tu vois un peu
ouais,
un cycle...
Ouais, bah, c'est exactement ça, ouais. Tu fais... Il y a plusieurs phases, c'est un peu comme un deuil, quoi. T'as le déni, t'as les moments de colère, de tristesse intense, et puis... T'as aussi ces moments où voilà, tu reprends un peu d'espoir dans ton sac et tu trouves de l'énergie et t'y vas quoi. Tu te bouges. Même moi, je passe encore par toutes ces phases-là. Ouais.
Et ça, vous en parlez entre militants, militantes de ouais. Ce mouvement?
Ouais. Et c'est ça qui fait du bien aussi. C'est ça qui fait du bien. Moi, avant d'y être, je trouvais pas grand monde qui en parlait aussi. Pas tout le monde dans son entourage qui est tout sensibilisé à l'écologie, à tout ça, quoi. Tout de suite, d'arriver là-dedans avec des gens qui sont pleins d'énergie pour faire plein de choses, même dérisoires, ben, ça fait beaucoup de bien. Ouais. Et on peut beaucoup échanger là-dessus, quoi. Et on a un truc, en fait, chez XR, ça s'appelle la culture régénératrice. Alors, on part du principe que... Si catastrophe se passe, il y a forte chance, on aura besoin de cette culture, de prendre soin de l'autre, de tous s'accompagner vers du réconfort, vers de la bienveillance, vers toutes ces notions-là. Donc il y a aussi des psychologues chez nous. Voilà. Ouais, parce qu'on en a besoin aussi, quoi. Moi, j'ai beaucoup appris avec Pablo Servigne, qui commence à être connu maintenant, qui a fait 2 bouquins extraordinaires. Comment tout peut s'effondrer et une autre fin du monde est possible. Et il me semble qu'il a fait quelque chose d'autre qui s'appelle l'entraide, une autre loi de la nature. Et c'est cet ancien ministre de l'écologie, Yves Cochet, qui lui alerte sur ces enjeux-là depuis des années, quoi. Et puis en termes de chiffres, il y a tous les rapports du GIEC qui sont hyper intéressants, quoi.
Et un effondrement de société, du coup, d'ici 15 à 20 ans, si on est optimiste, est-ce que ça va être une histoire d'énergie, d'épuisement des énergies?
Il y a le facteur des énergies. On pourrait presque dire qu'on mange du pétrole. On s'en sert dans l'agriculture. On s'en sert pour se déplacer, on s'en sert pour amener la nourriture et la déplacer, on s'en sert pour fabriquer des objets, on se sert du pétrole pour énormément de choses. Il y a le facteur dans l'agriculture qui est de tous les intrants. Je crois qu'il n'y a plus que 2 mines de potasse dans le monde. On s'en sert pour les mettre dans les sols. Je crois que c'est en Tunisie et au Maroc. Donc tu as l'énergie. L'appauvrissement des sols, parce que notre agriculture ultra-intensive fait que les sols s'appauvrissent, et très très vite, et la perte de biodiversité qui va avec. Et il y a le facteur climat aussi. il crée beaucoup d'instabilité dans l'espace économique et dans toutes les catastrophes qu'il engendre. Les inondations, les tempêtes de plus en plus violentes. À Marseille, on l'a vu, les épisodes de pluie quand même qui sont quand même de plus en plus intenses. Les sécheresses qui sont très importantes aussi. Donc tout ça, c'est des facteurs qui déstabilisent énormément la société humaine. Et ça coûte très cher, en plus de ça. Si on rajoute l'instabilité économique du monde financier à l'heure actuelle, une crise financière majeure risque de précipiter tout ça, quoi. Voilà. D'ici 10 ans, il est clair que qu'on n'est pas à l'abri qu'effectivement, au bout d'un moment, les choses se retournent. Après, quand on parle d'effondrement, on parle pas forcément d'un truc où on se réveille le matin et ça y est, les bagnoles font feu, les gens courent partout dans les rues, c'est l'apocalypse. Ça va venir petit à petit, mais on va bien finir par se rendre compte que oui, ça va être de plus en plus compliqué de maintenir nos modes de vie, quoi. Et quand on prend tout ça en compte, aucun politique ne fait apparaître ça dans son discours, quoi. Demander une réponse politique, en fait, c'est essentiel parce que la base peut bouger, la base peut changer de comportement, mais vu l'urgence dans laquelle on a besoin de décisions macroéconomiques et de décisions politiques radicales. Parce qu'on a besoin d'une économie de guerre, en fait. Il y a pas mal de scientifiques qui parlent de ça, qui disent que, ouais, on a, pendant des temps de guerre mondiale, on a su mettre en branle des économies. Aux États-Unis, les gens qui voulaient aider à l'effort de guerre, on leur a dit, écoutez, vous ne pouvez pas nous aider directement, alors faites des potagers, faites de la nourriture. Et dans toutes les villes, ils ont fait des potagers, partout. Et l'Amérique s'est autosuffie en légumes pendant la guerre. Donc oui, on a besoin d'une économie de guerre, quoi, pour enrayer ça. Et pour faire changer les comportements aussi, quoi, et les habitudes de consommation. Des empires qui sont tombés, des civilisations qui sont tombées, C'est arrivé par le passé. Après, on est dans une société qui est tellement globalisée et tellement interconnectée à tous les niveaux que là, ça a un peu le caractère inédit, quoi. Effectivement, ça met beaucoup de choses en jeu si tout s'effondre, mais je rebondis là-dessus parce que ça me fait penser, mais dans l'imaginaire, on a l'impression que tout le monde va se taper sur la gueule pour essayer de survivre à la place de son voisin parce que c'est... je bouffe, sinon je vais être bouffé. Ben en fait, c'est pas ça qu'on voit, quoi. C'est pas du tout ça qu'on a vu par le passé dans toutes ces catastrophes naturelles et dans toutes ces autres catastrophes. C'est de l'entraide. C'est énormément d'entraide et de fraternité, quoi. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre parce que notre société capitaliste, on a un peu l'imaginaire de Mad Max, quoi. Mais il n'y a aucune espèce sur Terre qui a survécu au fil des siècles uniquement en essayant de courir plus vite que l'autre, quoi. Si on vient dans un futur proche à penser, admettons, l'agriculture sans pétrole et sans tracteur, ça voudra dire qu'il va falloir qu'on remette beaucoup de main-d'œuvre là-dedans pour qu'on puisse tous manger. Il n'y a qu'avec l'entraide qu'on peut s'en sortir. Le gars qui va rester dans son bunker avec ses réserves et la porte fermée à clé, il tiendra 3 ans, 4 ans, 10 ans, mais au bout d'un moment, qu'est-ce qu'il fera, quoi ? Il n'est pas exclu qu'on passe aussi par une période de grands troubles, quoi. Où le temps qu'il y ait ce réapprentissage, ça soit très compliqué, quoi, à interagir avec les hommes, les femmes.
مستمعينا الكرام من أداء عبد الحميد السيد استمعنا إلى ابتهال يا خالقي أيها الإخوة والأخوات حين موعدكم في الثالثة والنصف مع برنامج النور في المدينة من إخراج هباد الضفيري فحتى الثالثة والنصف نبقى معكم وهذا الابتهال
C'est quand on se met dans l'action que l'espoir revient. Ouais, ça c'est ma petite leçon de l'extinction en million que j'ai appris.
À partir du moment où on quitte l'état de déni aussi, quoi.
Ouais. Bah, on peut y retourner un petit peu dans le déni, hein, c'est confortable. Hein. Et puis il y a des fois où, quand c'est trop et quand ça nous submerge, ça fait du bien d'oublier aussi, mais ça dure pas longtemps, quoi. Ça ne peut pas durer très longtemps. Déni individuel, je trouve qu'il s'arrête vite quand on me dit bah, peut-être que dans 10 ans ton accès à l'eau potable il va être compromis, ton accès à la nourriture et à la médecine aussi, est-ce que t'es prêt à te débrouiller de toi-même, par tes propres moyens? Non. non, pas du tout. C'est quand, tu m'as dit déjà? Parce que faut que ouais, ça nécessite une certaine préparation,
en espérant que ce soit entendu et que des gens s'en débrouillent.
Ouais. Ouais, c'est un peu le but. Nos politiques les premiers, mais en fait on sait pas trop s'ils sont dans le déni, dans l'illusion, dans l'ambition, c'est sûr. Temps nous est compté maintenant, quoi. On a moins de 10 ans pour faire une transition énergétique et écologique bien foutue, quoi, pour nous sortir d'affaires. Ouais. Catastrophes naturelles type tsunami, tout ça, voir son environnement qui est détruit assez rapidement, c'est un choc terrible, surtout quand c'est irrémédiable en plus de ça.
Je m'appelle Luna, ça veut dire une lune.
Toi, t'aimerais qu'il y ait quoi sur ta planète à toi?
Le soleil, les abeilles, les chevaux, les papillons, des jolis arbres, les feuilles, les fleurs, les nuages, des escargots, la terre. Aussi des jolis vers de terre.
2 degrés de réchauffement global, c'est 2 degrés de moyenne. Et que sur une planète couverte d'eau, au-dessus des océans, il fera toujours plus frais qu'au-dessus des terres. Donc 2 degrés de réchauffement global, c'est peut-être 5 degrés au-dessus des terres.
Αγρίπνια, αψηλάφη το ζώο, δίχως μια στάλα στοργή, σ' όσους δίψαν για χήμερες γέρνεις την κούπα σου που είναι πάντα διανή. Και ενώ περνά η νύχτα κατάλευκη, βροχερή σαν Κυριακή, ξέρω γιατί στα αυτή.
Et alors le soleil, tu penses que s'il pouvait parler, qu'est-ce qu'il dirait?
Bonjour, petite fille, est-ce que tu vas bien? Si on joue avec toi, on joue au ballon, on regarde les jolis arbres, on regarde un papillon, et...
Et si tu fermes les yeux et que tu essaies d'imaginer le soleil, il ressemble à quoi le soleil?
Il est multicolore comme ma sucette. Et il est chaud comme d'habitude.
La calotte solaire, elle agit comme un miroir pour les rayons du soleil. Le blanc des glaces renvoie les rayons UV en dehors de l'atmosphère. Si cette calotte polaire diminue, elle va renvoyer moins de rayons. Donc, le réchauffement s'accélère. Donc, à partir de 2 degrés, les glaces font très sérieusement et le réchauffement s'accélère. Il y a le permafrost aussi. Le permafrost, c'est un sol qui est toute l'année gelé et qui contient énormément de métal. Le méthane, c'est 10 fois supérieur au CO2 en gaz à effet de serre. Donc, plus il y a de réchauffement, plus le permafrost fond, plus ça libère du méthane, au plus ça doit réchauffer. Et donc, de ces plus 2 degrés, ça nous emmène à plus 3 degrés, qui nous emmène à plus 4 degrés. Et tout ça, c'est des boucles de rétroaction qui sont absolument pas maîtrisables.
Radio Réussite sur Radio Galère, en direct de la planète Mars.
Le plasma se réchauffe rapidement. S'en suivent sursauts et éruptions chromosphériques. Un afflux de particules chargées excite la ionosphère, entraînant de nombreux orages magnétiques. Analyse spectrale, force est de constater la singulière coïncidence.
Il est permis de soupçonner l'affinité de nos liquides, l'association possible intime entre nos deux organismes hétérospécifiques. Traverser votre chromosphère par toutes les latitudes possibles, briser les longueurs de liaison, radier la moindre distance,
briser la moindre distance,
briser les longueurs de liaison,
radier la moindre distance.
Je voudrais dépasser vos bords nébuleux avec le bonheur d'aborder l'intangible et l'invisible dans une absorption continue et jusqu'au fond de votre photosphère.
Ce jeu-là, il est vraiment inspiré du tarot de Marseille. C'est juste, en fait, c'est une réécriture du tarot de Marseille dans une perspective queer et féministe. Voilà, c'est un groupe de gens qui ont eu envie, en fait, qui étaient des fans de tarot et qui, donc c'est aux États-Unis, hein, c'est très anglo-saxon, ce qui est porté par ce tarot. Il s'appelle Collectif Tarot parce que c'est un tarot qui a été écrit collectivement et dessiné collectivement. Il n'y a pas une personne qui a fait les dessins, c'est vraiment plein de mains qui ont participé pour créer ce tarot. Et c'était l'idée d'avoir cet outil particulier qui est le tarot, mais peut-être de le relire sans toute son empreinte un peu patriarcale. Voilà, d'avoir un peu une relecture. Alors sur cette carte-là, c'est peut-être moins évident que sur d'autres. Moi, en tout cas, comment j'utilise ce tarot, je dis toujours, quand je le tire, je dis c'est pas divinatoire. Je le considère pas comme divinatoire. Je pense pas qu'il va prédire le futur ou qu'il va m'aider à comprendre qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Je le vois plus comme un outil pour pouvoir regarder les choses autrement, et comme c'est des images assez belles, moi je trouve, et puis assez mystérieuses, de pouvoir du coup ouvrir une porte de ton imagination pour voir qu'est-ce que cette carte elle t'évoque, qu'est-ce que cette image elle t'évoque, qu'est-ce que ce concept il t'évoque, et selon où t'en es à ce moment-là dans ta vie, ce qui t'arrive, tu vas faire des associations d'idées. Mais pour moi, c'est vraiment un outil parce que souvent, tu penses à ce qui t'entoure, ton contexte, avec une grille d'analyse et peut-être des choses que tu rabâches ou une rationalisation que tu rabâches qui t'empêche de voir d'autres choses. Et là, du coup, ça court-circuite un peu ça et ça va te permettre un peu d'accéder un peu plus facilement à ce que tu ressens, à ton imagination, aux images que ça te fait venir. Voilà. Donc pour moi, c'est pas divinatoire, mais c'est vraiment un outil pour t'ouvrir un peu les perceptions.
Mais c'est une très belle carte, en tout cas.
Ouais, elle est belle. Bon, je sais pas, la radio, c'est peut-être pas évident à décrire, mais oui, elle est très belle.
Puis il y a un petit sourire quand même sur ouais. Ce petit personnage-là.
Ah, le petit personnage là qui flotte dans l'eau, là, il a l'air très bien, tu vois. Mmh. Il a l'air parfaitement béa. Même la main, elle est très calme, elle n'est pas crispée du tout, quoi. Elle est, tu vois, elle est...
Peut-être un petit... côté lâcher prise, enfin, ouais. Tu peux te laisser aller, tout va bien.
Oui, le petit personnage, c'est sûr qu'il est totalement relax là dans la main. Là.
Ça donne envie d'être à sa place.
Plutôt qu'être la main, toi tu te vois plus le petit personnage que la main.
J'avoue, j'aimerais bien être tout bien comme ça, c'est bon, il n'y a pas d'autre qui gère pour moi. C'est vrai qu'elle laisse un peu dans la contemplation aussi.
Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu une belle nuit d'été, quoi.
Vivement qu'elles arrivent d'ailleurs. Et merci pour le partage en tout cas.
Bah écoute, je sais pas ce que tu vas pouvoir en faire. Mais
tu veux encore dire quelque chose?
Je sais pas si on considère que c'est toi là qui l'as tiré pour l'émission.
En plus, ce qui est un peu amusant, c'est que quand même quand je l'ai cherché dans le jeu, elle était pile là où j'avais coupé le jeu.
Ah non! Ah bah voilà, c'est vraiment une carte. La carte qu'il fallait quoi. Bah le conseil de cette carte, ça serait de prendre soin des petites choses, de savourer aussi les petites choses qui naissent, de les laisser grandir et de laisser ce projet se développer, tu vois, en prenant soin, en prenant du plaisir, en faisant que ce projet, il te donne de la force, il te donne de la ressource.
C'était Radio Réussite sur Radio Galère. Nous arrivons au terme de ce troisième épisode cosmique. Vous avez entendu Nathan à propos du mouvement Extinction Rébellion. Pour en savoir plus, extinctionrebellion.fr. Il y a eu Rinka Deguin qui nous a proposé une lecture de réception, la carte 3 du collectif Tarot. Et vous avez entendu Mamadou et Luna qui nous ont partagé leur univers. Vous avez écouté des fragments du poème « Je vous écris d'un pays lointain » d'Henri Michaud et un passage de « Pourquoi sorcière ?» de Xavier Gauthier. Les créations sonores. Chimiquement vôtre, un poème d'Agathe mis en son avec Charles. Agathe avec nous dans les studios. Et vous avez écouté La Grande Forêt de Caroline Parietti. Vous avez entendu des sons de l'univers et Churi, la comète chantante, enregistrée par la NASA. Des sons dans l'espace ? Eh oui, car même si l'espace ne permet pas aux ondes acoustiques de se propager, les planètes émettent malgré tout des fréquences hertziennes.
Pour les musiques, Water de Sudan Archives, Space is Only Noise de Nicolas Jarre, Disparaîtra de Ronnie Atner et Agrypnia de Thanasis Papakonstantinou. Et bien sûr toujours, Leila Arab avec Little Acorns pour notre générique préféré. Merci donc à Agathe, à Mamadou et Luna pour leur partage sur l'univers, à Rinka Deguin, à Nathan, une spéciale dédicace à Sidi et ses trois enfants. Et on voulait vous partager un rendez-vous cosmique à venir, le Bad Astéroïde Tour à Grenoble du 5 au 10 juin 2019. Des rencontres féministes avec spectacles, échanges, musique, ateliers, radio. C'était Prune et Noémie pour Radio Réussite.
Une émission podcastable sur radiogalère.org et sur lecridelagirafe.org. On vous retrouve bientôt pour une prochaine émission au poil. Et avant de partir, pour conclure cette émission, nous vous proposons un dernier voyage cosmique qui révélera finalement peut-être tous les secrets de nos liens à l'univers.
Donc nous sommes ici dans la vallée de Luchon. Nous venons de faire une randonnée de plusieurs heures. Comment vous décrire ce paysage ? Nous avons une cascade, des glaciers, un lac. C'est assez magnifique. Thaïs est en transe sur une musique. Alors Thaïs, explique-nous un peu la sensation de se sentir.
Je suis en parfaite osmose à la fois avec la nature, c'est-à-dire je suis au contact de l'herbe, mais également au son que j'entends de mon téléphone portable qui m'envoie au-delà de ce lac que j'arrive à voir par-delà la vue.
Oh, ça a l'air assez extraordinaire comme émotion. Donc tout cela est procréé par procuré par cette nature finalement qui est démesurée à la hauteur finalement de notre propre démesure de la vie.
C'est-à-dire que il y a là une contradiction entre les notes de musique qui proviennent de ce téléphone qui sont assez électriques et entre ce lac qui est totalement paisible et qui ne bouge qu'au bruit de la nature et du vent.
Alors, c'est vrai que c'est une découverte tout à fait extraordinaire. Nous sommes finalement en osmose entre une musique créée par l'homme et une nature qui nous dépasse complètement. Alors comment se situer, nous, pauvres petits humains, finalement, dans cet espace entre deux démesures du monde? Qu'en dites-vous?
C'est là qu'en soi, je trouve ça ultra intéressant, puisque nous sommes entre ces deux mondes complètement différents. Mais nous, hommes, venons créer ce centre à part entière.
Alors vous pensez être au centre de cet univers naturel et artificiel?
Écoutez, mademoiselle Choquet, je ne dirais pas ça. Ça serait bien prétentieux de notre part en tant qu'être humain. Mais je pense que nous pouvons réussir à trouver quelque chose d'équilibré et de centré à partir de ces deux corps totalement différents.
Ah oui, c'est vraiment assez passionnant. Allons demander un peu l'avis de notre troisième acolyte. Alors, mademoiselle, qu'en dites-vous, Caroline, notre guide de montagne?
Bah moi, je trouve que si on analyse autour de nous, on peut y voir beaucoup de choses. Entre le bleu de l'eau et de son ombre, et puis le vert, rien qu'entre les couleurs, les sensations de chaleur, de fraîcheur. Et puis ce qu'on y voit aussi, tu vois, les différents plans, tu vois, entre la montagne qui est tout au bout, celle qui est juste là.
Ah oui, c'est tout à fait passionnant.
Tu vois, c'est un ensemble d'éléments qui fait que nous, on peut se sentir poids, quoi. On peut se sentir
en harmonie ou intrus?
Je sais pas, vous vous sentez comment, vous?
Je pense que Caroline est malade.
Je pose les questions, vous répondez, mademoiselle. Bon, ça a l'air de la faire rire. Alors, comment interpréter ce rire? Sommes-nous finalement dans un bonheur né de cet espace ou de notre propre rencontre et venu jusqu'ici? Finalement, nous sommes à l'aboutissement d'une aventure. Qu'en est-il finalement du bonheur que nous ressentons?
Il n'y a pas de mots pour dire ça, mais là, maintenant, à l'instant T, dans ce paysage, nous, on est quoi? Nous, bon, sûrement qu'on doit faire tâche, mais dans un avenir proche ou lointain, que peut-être on ne pourra pas vivre à notre échelle, peut-être qu'on ne fera qu'un seul tout avec tout ça, tu vois, parce qu'on en fera partie,
tu vois. Tu penses qu'on pourra faire partie de ces rochers, de cette herbe bien verte?
Peut-être pas en faire partie.
Comme un caméléon,
au moins,
quoi.
Ouais, plus comme un caméléon. On ne sera pas rocher, on ne sera pas herbe, mais on fera partie, ce sera un tout.
Caméléon pour être tout à la fois?
Je comprends pas la question.
Bon, voilà, c'est la fin de ce petit reportage sur l'aventure de trois amis escaladant Monts et Merveilles. Nous sommes arrivés au terme de ce périple et nous fêtons cela avec une musique forte ambiancée. Voici tout de suite. Alors imaginez les balancements de tête et de corps dans cet espace surdimensionné. Nos corps sont pleins d'énergie et nous bougeons. Et bougez avec nous.
Disparaîtra.